Ah oui, bonjour, c'est Cédric de Rennes. Ah, ils ont raison, tous ces gens, hein, dehors les étrangers, hein, dehors les Anglais qui rachètent nos maisons, et dehors les Francs et les Romains qui sont venus avec leurs prêtres catholiques nous virer nos dieux de la forêt. Ah, et dehors les Celtes, il y avait du monde en Gaule avant vous. Puis dehors les Cro-Magnons, la terre à Néandertal. Ah, il faut arrêter les conneries quand même. Salut.
Ah tiens, comme par hasard, hier, tu sais, la mère de famille, là, intégrée et tout, là, qui a planté le juge, Fatia Bouzaoui. Ouais, un bel exemple d'intégration. Quand c'est qu'on ferait le livre noir de l'immigration en France? Intéressant, non? Bah ouais, pensez-y, hein. Pour un Zinedine Zidane, combien de criminels et de massacreurs et de violeurs en série, de tournantes et de brûleurs de bagnoles, etc., etc. Posez-vous la question, hein? Allez, ciao!
Salut Daniel et salut à toute l'équipe. Merci de m'avoir rappelé ce merveilleux sketch de Fernand Reynaud qui savait anticiper sur son temps. Quant aux grincheux de tout poil qui se manifestent anonymement, demande-leur d'aller faire un tour dans la campagne environnante de Verdun et là, ils découvriront, n'en déplaise au sieur Hortefeux, que sa liberté d'aujourd'hui, la mienne, la nôtre, nous la devons en grande partie à ces maghrébins, asiatiques, africains, enrôlés de force pour la guerre de 14-18, qui était certainement à l'époque la première mondialisation, et qui ont laissé leur peau sur une terre étrangère. À eux, on n'avait pas dit, la France, on l'aime ou on la quitte. Ils étaient au premier rang, leur vie n'avait pas de valeur, et leur décoration, quand ils revenaient, valait 100 fois plus que les hochets que la République d'aujourd'hui distribue à ses plus fidèles valets. Il est des généraux aujourd'hui qui n'ont jamais entendu siffler une balle, et Dieu sait si leur uniforme rappelle par leur décoration celle du général Tapioca. En tout cas, bravo à vous toutes, à vous tous, bonne continuation et vivement le retour de cette émission à 17h. C'était Bernard de Zosier, 67 ans, à Saint-Maurice-de-Cassevieille, petit village du Gard. Ciao.
Oui, bonjour, c'est Jean-Claude Amara, le porte-parole de l'association Droit Devant. J'appelle du tribunal de Paris, du palais de justice, 10e chambre correctionnelle, où je passe tout à l'heure pour une pseudo-violence volontaire à agent dans l'exercice de ses fonctions. Voilà. Donc il y a un rassemblement de soutien qui a lieu sur la fontaine de Saint-Michel, pour me soutenir par rapport à, évidemment, cette accusation parfaitement mensongère et calomnieuse qui tente à prouver que maintenant en France, la justice transforme de plus en plus le coupable en victime et la victime en coupable. Voilà, donc pour ceux qui le peuvent, ils rejoignent la fontaine Saint-Michel dans l'après-midi pour ce rassemblement de soutien, non pas simplement à moi, mais à tous ceux qui aujourd'hui sont victimes d'une justice qu'on peut qualifier d'exception, une justice d'abattage, une politique du chiffre, chère à Sarkozy et à M. Hortefeux. Au revoir à tous et merci pour la solidarité. Jean-Claude Amara, porte-parole des droits de l'homme.
Oui, bon, maintenant ça suffit. C'est quoi ce délire total sur le répondeur et en France, là? On est où, au juste? Enfin, où est-ce qu'on est? Maintenant, ça suffit. Les petites mesquineries, la bêtise, ça suffit. Moi, je suis ravie d'entendre des intellectuels à la radio. Ça fait vraiment du bien. Enfin, c'est bon. Tout ce qu'on entend, si j'y suis, c'est très instructif, c'est très intéressant, très ouvert sur le monde. Ça tire vers le haut. Moi, j'en ai ras-le-bol d'entendre tous ces râleurs et ces gens complètement ras des pâquerettes, bêtes comme leurs pieds, revenir aux années 30. Non, mais ça va, quoi, merde. On est en 2007, maintenant, ça suffit. Ouvrez vos têtes, ouvrez vos esprits et respirez un coup, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette France? Merde, ça suffit. Voilà, c'était Carole de Nantes, j'en ai ras-le-bol. Moi, j'ai envie d'une France ouverte, belle. Je suis d'origine kabyle et française, ma mère est algérienne. J'ai 36 ans, enfin ça va, la vie est belle. Et c'est super génial d'avoir des étrangers chez nous, des gens qui ne sont pas comme nous. Moi, je trouve ça génial et formidable. Merde à tous les cons. Voilà, au revoir.
Un petit message pour rafraîchir la mémoire des auditeurs décomplexés. En 1944, 3 mois avant le débarquement en Normandie, le maréchal Pétain est venu à Paris. Une messe, bien sûr, a été dite à Notre-Dame, en l'honneur du chef de l'État français. Sur le parvis, Ils sont des milliers à acclamer le maréchal. Toujours la même année, mais un mois après le débarquement, c'est le général de Gaulle qui vient à Paris. Bien sûr, une messe est dite à la cathédrale pour fêter la victoire sur le parvis de Notre-Dame. Ils sont des milliers à acclamer le général. Et vous savez quoi ? C'était les mêmes. Ah, ces braves petits Français, bien dociles, bien bêlants, toujours dans le sens du manche, suivant fidèlement le gentil berger. Enfin, le berger du jour, bien sûr. Au fait, vous avez déjà goûté de la cervelle de mouton ? C'est fade, hein ? Pensez donc, le mouton est tellement con que sa cervelle n'a aucun goût. Vive le gigot !
Merci pour ces messages à chers AMG, auditeurs modestes et géniaux. Ça a beaucoup chauffé ces jours derniers suite à nos émissions sur l'immigration. Et bien, on va continuer encore aujourd'hui un thème un peu différent, celui du colonialisme, celui du néocolonialisme et on pourrait dire de la domination de façon générale, mais évidemment en partant de la domination coloniale. De quoi s'agit-il ? D'un groupe qui s'appelle La Rumeur, que vous connaissez peut-être, si vous êtes des fidèles de La Basse, si j'y suis, on leur avait consacré une émission en octobre 2004, et là, ce groupe de rappeurs de La Rumeur sortent leur dixième album. C'est pas leur dixième album, c'est leur 10 ans de rap. Un rap engagé, un rap militant, un rap à risque, et c'est pour ça qu'on les aime, bien évidemment. Mais on a eu l'idée, avec Antoine Chao, de les mettre en présence d'un historien, grand historien, qui est Marc Ferro. Marc Ferro, vous le connaissez, vous l'avez vu dans des émissions de télé, un peu partout, notamment aussi dans La Basse, si j'y suis. Et on l'aime particulièrement, parce que c'est un érudit extraordinaire, mais en même temps, c'est un homme qui a le sens de l'expression populaire, qui a un esprit libre aussi, qui va tout le temps à contre-courant de ses propres idées, semble-t-il, et ça en fait un homme libre, inattendu, toujours décapant et toujours stimulant. Donc on a eu l'idée avec Antoine de dire qu'est-ce que ça ferait si Marc Ferro se penchait sur un morceau de rap des gars de La Rumeur. Et si les gars de La Rumeur rencontraient Marc Ferro ? Et ben c'est ce à quoi on va assister aujourd'hui. La Rumeur est allée à l'école des hautes études en sciences sociales. Voilà. Et puis il y a eu cette rencontre un peu improbable entre le vieux savant et les jeunes gars de la Rumeur. Et vous allez voir ce que ça donne. C'est un dialogue tout à fait touchant. Je pense que l'auditrice qui était ravie d'entendre des intellos dans La Basse, si j'y suis, ben, va être servie aujourd'hui. C'est notre thème. En tout cas, La Rumeur et le savant jusqu'à 16h. La Basse, si j'y suis.
Il s'agit quand même de savoir de quoi on parle, savoir ce qui a été notre passé, savoir ce qu'a été nos liens entre les uns et les autres, et savoir ce qui est aussi notre présent. Voilà, il s'agit pas simplement de tourner la page. La grande mode en ce moment, c'est de dire il faut tourner la page. Ben oui, mais dans n'importe quel bouquin, si on tourne les pages sans les lire, il y a quelque chose qui va pas, on comprend pas l'histoire. Pour la comprendre, ben, faut les lire, les pages d'histoire.
Qui renoue avec le texte et avec ses racines contestataires. Ouais, et ce soir, merci d'être venu, d'avoir répondu présent au rendez-vous.
Alors, à nous le bruit
et ses effractions en série,
en sous-sol,
ses clés d'acier
et ses clés de sol.
À nous le bruit,
Paris,
à vous le bruit.
Salut, c'est Daniel Mermel, La Basse, j'y suis avec Antoine Chao, La Rumeur et le savant.
Flight number 2, arriving from New York.
appartient à l'association Survie. L'association Survie, c'est quoi ?
Une association qui, très souvent, décrypte l'actualité et essaye de comprendre la réalité des relations entre la France et l'Afrique. Et très souvent, dans la dénonciation, là, cette année, on a fait toute une série de propositions qui ont été portées aux candidats et qui vont l'être au niveau des candidats législatifs, qui l'ont été pour les présidentielles. Des propositions du genre la fin de la cellule de l'Elysée, sa disparition réelle, on nous l'a souvent promis, une perquisition ratée mais récente vous a prouvé que cette cellule existe toujours. Cellule africaine, qui en fait est le lieu de la gestion occulte, de la gestion secrète de la politique de la France en Afrique. Notre proposition phare, c'est que les parlementaires s'en chargent, qu'ils en débattent. Je vous invite à voir sur le site la liste des propositions politiques de Survie. Je ne vais pas les décliner maintenant. Juste quelques mots de l'actualité du jour. En dehors de notre concert, une autre actualité. Le nouveau président de la République a pris ses fonctions aujourd'hui. Il nous promet la rupture. Mais ce qui est très étrange, c'est que toutes ces amitiés sont très très ancrées dans ce
la rupture, la rupture. En tout cas, le combat continue pour ceux qui sont là ce soir du 16 mai 2007 à Paris, à la Bellevilloise, pour ce concert de soutien à l'association Survie. Là, vous connaissez cette association, bien sûr, et vous vous souvenez de nos rencontres avec Verschave, qui était l'âme pensante de cette association. Donc ce soir-là, il y avait un soutien, hommage, et autour de ce thème de la colonisation. J'ai devant les yeux un énorme bouquin que je vous conseille, celui-là aussi, qui s'intitule « Le livre noir du colonialisme ». C'est un ensemble de travaux dirigés par Marc Ferraud que nous allons rencontrer sur le colonialisme, la colonisation depuis fort longtemps, pas seulement celle de la France à la Méditerranée et à l'Afrique noire, mais celle aussi des Amériques, celle de la Sibérie, celle de ce phénomène qu'a été le colonialisme et la colonisation. Aujourd'hui, on est entré dans une phase de post-colonisation, mais ce qui reste au cœur, au fond de ce phénomène historique, peut-on dire, c'est évidemment la domination. La domination et la colonisation au sens large, y compris la colonisation des esprits et la domination des uns par les autres, des pouvoirs sur les modestes, sur les petits, sur les faibles, etc. Et c'est ce que conteste toujours, depuis toujours, la chanson rebelle, contestataire, depuis aussi, sans doute, la nuit des temps. En tout cas, nous sommes habitués depuis fort longtemps à cette nécessaire contestation des goguettes à Léo Ferré. Et aujourd'hui, c'est leur tour à ces nouveaux prolos des banlieues populaires de s'exprimer, de prendre le relais de cette contestation. Et La Rumeur est ce groupe qui fête aujourd'hui ses 10 ans, qui est en délicatesse avec un certain ministre de l'Intérieur devenu président, qui leur a fait un procès pour des paroles jugées infamantes. Ils ont gagné ce procès en première audience, puis en appel. Le procès passe en cassation prochainement, et voilà, ils vivent cette aventure juridique également. Ça les empêche pas de continuer de se battre et de réfléchir. Il y a tout un rap d'accord commercial, etc. Mais il y a aussi tout un rap, on en a donné des échos, on s'en est forcé en tout cas, qui essaye et qui réussit souvent à raconter cette époque par les moyens de cet art, de la rébellion, du chant, qui est révélateur, sensible, parfois avec beaucoup de perspicacité, des forces en présence, des tensions à l'intérieur d'une société. Et c'est le cas de ce groupe. Donc on va les retrouver aujourd'hui avec Antoine Chao, mais on va les emmener voir Marc Ferraud. Et voilà, vous voyez la silhouette de Marc Ferraud, c'est vraiment presque un savant de pour bande dessinée, quoi, avec ses lunettes, avec sa silhouette comme ça, très tassée. Et on va voir et écouter ses réactions en présence de ces grands gaillards et de leur chant.
Alors on se présente quand même. Moi c'est Serna. Voici Natas, Flesgut au platine. C'est Synapse pour Survie.
des puissances. Au fond de peuple subissait les nuisances. La permanence du colonialisme cause des souffrances. À une goutte d'essence coûte toujours une goutte de sang. Tant de masse désignée pour subir nos noirs desseins. Il est temps que l'homme blanc dessoule, calmer son zèle. On voit comme Icar en train de se brûler les ailes. Il a déjà brûlé les îles, volé le cuivre et le sel. Salit la terre d'ébène, du ciel jusqu'au sol. Visage pâle, c'est cru pour voyeur de progrès. Il le revendique, ce qu'il a fait de bon gré. Fait encore, prend l'Afrique pour laboratoire. Croit guérir ses malheurs en propos incantatoires. Fais le deuil, j'ai vu dans le fond de l'œil de mes pères la raison de ces écueils. Racisme subsiste, vous savez déjà, ce n'est pas négligence, je suis pas dégagé de ce putain de constat.
Nos intérêts, c'est la libre exploitation du pétrole et du gaz que nous avons découvert ou que nous découvririons.
Donc toi, Amé, aussi, t'as participé à la compile Décolonisons.
Ouais.
Donc tu travailles avec l'association En Survie.
Ouais, c'est une association qu'on a, dont on a croisé le chemin à 2-3 reprises. On les connaît, enfin moi je les connais en particulier à travers le travail de Verschave sur les nouveaux liens de domination entre les anciennes puissances coloniales et les anciens pays colonisés, donc la France et le carré africain, quoi, ce qu'il a appelé la France-Afrique. Donc on connaît Survie parce que c'est l'association qui relaie ses travaux, ses théories, ses pensées, ses analyses, ouais, qui sont précieuses. Nous, c'est vraiment quelqu'un qui manque aussi beaucoup aujourd'hui, Verschave. Quelqu'un de l'association Survie qui s'appelle Abkas, on a fait un morceau ensemble, il s'appelle La mémoire des vaincus. Et on veut contribuer à ce que cette question... à ce retour entre ce qui se passe au pays, ce qui lie notre pays, ici la France et le pays, les pays d'origine de nos parents, l'Afrique d'une manière générale, les rapports Nord-Sud, comment aujourd'hui une poignée de personnes organise, voilà, depuis des décennies, le pillage systématique des pays d'Afrique et les conséquences que ça a directement, quoi, sur les cousins qu'on voit débarquer au port de Marseille, entrer clandestinement en France, en Europe, et qui essaient de survivre et qui se vendent au premier marchand de sommeil, au premier exploitant venu ici à Paris. Quoi.
Au premier maquignon du bâtiment, c'est ça?
Exactement, ouais. Ouais, les maquignons du bâtiment, exactement. Et donc voilà, toutes ces questions-là, c'est d'ailleurs le sens, tu vois, de que dit l'autopsie, c'est tous ces niveaux intermédiaires entre, d'une part, voilà, les multinationales qui tirent le maximum de profit de cette situation, et en bout de chaîne, la petite famille malienne, sénégalaise ou mauritanienne qui échappe de peu à moitié des flammes d'un hôtel parisien, quoi, qui a cramé vers Opéra, quoi. Et avec Abkas, dans La mémoire des vaincus, Il y avait cette dimension aussi, quoi. Le fait d'être visible et d'être vivant et d'en parler, de le dire, c'est aussi notre victoire, quoi. Et elle passe aussi par ces réappropriations symboliques. Et c'est aussi ce qui anime des gens avec qui on a pu travailler comme Kazé. Et ça n'exclut pas les différentes manières d'approcher la question, les sensibilités, les caractères, les styles d'écriture, etc. Il y a évidemment la place pour... Il ne s'agit pas d'adopter une charte commune et d'avoir tous la même rime et la même analyse, quoi. C'est de porter une alternative, quoi, dans les imaginaires suggérés, quoi, dans nos disques et dans les visages, dans le type de visage et dans le type d'histoire et dans le type de couleurs et de paysages qui traversent nos textes, qui traversent nos musiques. Et il faut qu'on soit plus nombreux.
Présent et ma souffrance, être au fond du précipice ou en surface, mais en tout cas sur place et haï à outrance. Mes cicatrices sont pleines de stress, pleines de rengaines racistes qui m'oppressent, de bleu, de kiss, de peine et de chaînes épaisses pour les indigènes à l'origine de leur richesse. On nous agresse, donc on agresse. Ils ont battu des nègres, violé des négresses, donc nos plaies sont grosses et mon crâne en dos, angoisse et morale en baisse dans mon blocos. C'est le blocus sur nos vies en plus. On signale nos pédigrés dans nos cursus. Comment veux-tu que ma colère cesse quand le colon est cruel comme le SS? Tu peux me croire, y'a pas d'espoir. malheur et mal-être. Ne connaître que ces remparts qui m'ont vu naître, m'ont vu grandir et puis me verront disparaître. Et c'est les nôtres qui sont au centre pour subir la peur ou la faim au ventre. Fléchir à chaque fois devant chef et maître et réfléchir à tout ça le soir quand ils rentrent. On nous maltraite de 20h à 20h30. Nos vies font les gros titres dans leurs chapitres. Les journalistes flippent et leur cœur palpite. S'inquiètent qu'on fasse sauter sous tes cockpits. Y'a pas d'espoir dans mon périmètre. Ma cote est nulle à leur applaudimètre. Tu peux me croire, faire l'étonner, sourire avec ironie. C'est le point de vue des damnés, des colonies. Tu peux me croire, y'a pas d'espoir.
Y'a de la douleur à voir dans nos histoires.
Tu peux me croire, y'a pas de victoire.
Y'a de la douleur à voir dans nos histoires.
Putain.
Mais je comprends pas pourquoi vous avez tout ça, vous voulez me faire parler, c'est ça?
On veut vous faire, oui, je voulais vous présenter donc Amé.
Bonjour.
Bonjour. Qui est musicien du groupe La Rumeur.
Oui.
Et donc qui écrit sur des thèmes qui doivent sûrement vous donner envie de réagir.
Mm-hmm.
Alors on voulait vous faire écouter des textes. Amé se proposait de vous lire.
Oui.
Alors un titre qui s'appelle Que dit l'autopsie. Mm-hmm. Donc on a imaginé surplombant un billard comme ça. Laboratoire légiste où on aurait à examiner un peu la dépouille du système transafricain, néocolonial, hérité,
post-colonial,
néocolonial pour certains, post-colonial. Donc voilà, c'est un parti pris, je dirais, métaphorique et un peu et fictif, quoi, évidemment, puisqu'il est loin d'avoir plié le genou. Donc La Rumeur, c'est un groupe qui est composé de 4 rappeurs donc qui écrivent et qui déclament leurs textes alternativement. Pour vous resituer un petit peu le groupe, on a une dizaine d'années d'existence discographique et scénique.
Vous êtes de quelle région vous-même?
Alors moi, je suis né, j'ai grandi à Perpignan.
Et vos parents étaient où avant?
D'Algérie.
Mais d'où?
Mostaganem.
Ah oui, moi j'étais à Oran. Hein.
Ah oui,
oui. Bon, ben... J'étais pendant 10 ans à Oran.
D'accord.
Donc je connais bien.
Peut-être même mieux que moi. Parce que,
sans doute, oui.
Je n'ai pas mis les pieds depuis 20 ans.
Oui, mais je ne suis pas pied-noir. Hein.
D'accord.
Je suis métropolitain, ouais. Mais j'ai enseigné là-bas.
Okay. À l'université d'Oran?
Il n'y a pas d'université.
Il y a pas d'université, oui.
J'avais un lycée. Oui.
D'accord.
Ma femme aussi au lycée de Fouilly.
Donc je vais vous lire successivement les 4 petites strophes. 1 pour le sang, 2 pour l'acier.
Et la France-Afrique a autopsié.
Heure du décès, le plus tôt sera le mieux. Cause du décès, cela nous importe peu.
Que dit l'autopsie? Avant d'éparpiller les cendres, au moins aussi nombreuses qu'il y a de comptes à rendre. Scalpel, bistouri, le légiste est formel. Ce système crapuleux a du plomb dans l'aile.
Qui a une dette envers qui? Qui place des tortionnaires à la tête de nos pays? Qui s'enrichit de la crasse de cette vieille dépouille? Quelques sales races de barbouzes qui doivent se sentir bien seules, sans risquer de se prendre des coups de calibre 12. Plus de rentes pétrolières, plus de médecins sans frontières. L'aventure s'arrête là. Chirac, Focard, Pasqua, Mitterrand et la liste est longue comme le temps qu'on réagit.
L'autopsie, de les empire-t-on? Que dit l'Elysée? Attendez une seconde. La DGSE est sur les dents. Elle revoit le plan des prochaines livraisons d'armement. Depuis qu'une poignée de régimes récalcitrants marche armée sur la tempe des vieux pères blancs. Toutes les races possibles de mercenaires convergent vers Kinshasa, Conakry, Abidjan. Les suceurs de sang jurent fidélité à Total Accord, Bouygues, Bolloré, le fond de l'air est luxembourgeois, le cachet du Quai d'Orsay faisant foi.
1 pour le sang, 2 pour l'acier, et la France-Afrique a autopsié. Heure du décès, le plus tôt serait le mieux. Cause du décès, ça nous importe peu. 1 pour le sang, 2 pour l'acier.
Ils ont voulu me corrompre, le machetti.
Heure du décès, le plus tôt serait le mieux. Cause du décès, ça nous importe peu.
Que dit l'autopsie, docteur? Y'a encore du sang sur le bistouri. Le traitement bestial retrace l'historique. Bilan catastrophique pour regagner Milan, Madrid ou Paris. Combien de meurtres en silence dans le corps de l'avarice? Les artères sont bouchées et le flux migratoire ne passera pas les rochers. Quand dans la couenne, douane et militaires y enterrent toute illusion d'exister dignement sur cette terre. Eux qui s'en remettent au hasard de l'exil peuvent te détailler au rasoir ces terres d'asile. Et tous les doutes s'envolent dans la soute pour s'échouer sur
des barbelés ou sur une plage comme du mazout.
Que dit l'autopsie, l'enfer répondait en ville. Des planches boueuses posées délimitent le bidonville. Retour arrière, des crémaillères en solitaire à Nanterre. Sur le pavé, les proprios jetaient leur misère. L'activité reste salutaire pour ne pas se perdre, quitte à s'arracher sur la pierre dans une église en colère. Saint-Bernard protège peu face aux boucliers armés. Les promesses creuses montrent une sortie fléchée.
Famille brûlée dans des hôtels aveugles et sourds. Oxygène plombé, peinture malade dans le séjour. Le parcours reste rude pour ces visages sans nom, invités par la grande porte et jetés par celle du fond.
Eh ben c'est pas mal.
Eh ben c'est pas mal, dit Marc Ferraud dans son bureau, je rappelle, à l'école des hautes études en sciences sociales. Et Amé vient de lui présenter ce morceau, donc, qui est dans cet album de la rumeur, qui s'intitule « Du cœur à l'outrage », à l'occasion du 10e anniversaire de la création de ce groupe de rap. Voilà. Alors, Marc Ferraud, est-ce qu'on le présente encore? Je suis pas sûr. Vous vous souvenez de lui, évidemment, sur la 7, sur Arte, utilisant les images d'archives ou le cinéma pour faire parler l'histoire, mais c'est aussi un homme engagé. Il était dans la résistance, il était dans le Vercors. Il est né en 1924. Marc Ferraud, c'est un spécialiste de l'URSS, je viens de le dire, de la colonisation, des mondes arabes, de l'histoire du cinéma. Enfin, sa bibliographie est considérable, mais c'est aussi, on le sait, un homme ouvert, pétillant, qui arrive à conceptualiser extrêmement vite et qui considère que le rôle de l'historien consiste à essayer de rendre le passé intelligible et notamment son rapport avec le temps présent. Et ben d'une autre façon, c'est ce qu'essayent de faire les gars de la rumeur en évoquant ce passé colonial dont ils sont les héritiers et d'essayer de comprendre, d'essayer de mettre à jour et comme on le disait en commençant, de lire la page avant de la tourner. Il faut la tourner cette page, on va pas vivre dans le ressassement à n'en plus finir et les indignations rétroactives à n'en plus finir, mais faut-il encore que cette page soit lue et lue par les intéressés, et c'est vrai qu'on n'a pas trop intéressé les intéressés à leur propre histoire. Alors voilà, Marc Ferraud vient d'écouter, quelles sont ses réactions suite à cette présentation de ce morceau qui s'intitule « Que dit l'autopsie ?»
Eh ben c'est pas mal. Bon, ma première observation, si vous voulez, c'est que du temps où je militais avec les nationalistes algériens, donc dans les années 50, en gros, où nous avions fondé à Oran un mouvement qui s'appelait Fraternité Algérienne, où il y avait des militants aussi bien libéraux français, catholiques de gauche, des Oudma, des MTLD, des FLN, des messalistes aussi, enfin entre eux ils sont un peu tués très vite, enfin bref, où il y avait tout ce monde. Moi, ce qui me frappe en premier, si vous voulez, c'est que jamais la révolte et la revendication n'avaient pris un tour littéraire et poétique. C'était purement stratégique et politique. Ça, c'est vraiment, dès votre première phrase, ça m'a tout de suite sauté à la tête, parce que, si vous voulez, il n'y avait pas dans le mouvement national, quelles que soient ses tendances, de recours à ces problèmes de mémoire qui sont très présents dans votre texte, voyez, et c'est ça évidemment la différence. C'était entièrement posté vers l'avenir, alors que ce texte est un texte que moi j'appellerais de ressentiment, n'est-ce pas? Il n'est pas tourné en quelque sorte vers l'avenir, alors que l'action politique de l'époque des nationalistes l'était. Pas des Européens, bien sûr, eux ils étaient conservateurs, ça va sans dire. Pas tous, mais enfin la majorité, ça vous le savez. Ça c'est la première chose qui me frappe. La deuxième chose qui me frappe dans ce texte, si vous voulez, c'est qu'il y a un jump, un saut en temporalité que vous évoquez bien, entre la génération qui faisait la guerre ou qui militait fort, et la deuxième ou troisième génération qui veut syncoper, en quelque sorte, la période intermédiaire déracinée, comme vous dites. Et de fait, il y avait une césure totalement vivante entre vos grands-pères et les Européens et le monde occidental. Le lien entre les uns et les autres, c'était les militants, c'est-à-dire les révolutionnaires, c'est-à-dire les combattants, c'est-à-dire les nationalistes. Mais en dessous et à côté, il y avait une sorte de séparation, pas de séparatisme, de séparation, séparatisme bien sûr, puisqu'ils étaient nationalistes, il y a une séparation, alors que vous créez un lien par la mémoire, en ce sens que vous
revendiquer le droit de rejeter une certaine manière d'hériter ou de ne pas hériter du passé. C'est bien ça.
Ah, oui, oui, oui.
Donc, c'est quand même assez extraordinaire parce que moi, si vous voulez, j'observe que les Algériens, en gros, j'aurai une remarque à faire après, une autre. Les Algériens sont beaucoup plus intégrés à la société française aujourd'hui qu'ils ne l'étaient du temps de l'Algérie dite française. Du temps de l'Algérie dite française, il n'y avait aucun mariage mixte. Du temps de l'Algérie française, il n'y avait aucune pratique, même islamique, musulmane. Hein. Tous mes copains nationalistes, ils étaient totalement laïcs. Ils n'étaient pas entiers musulmans, je n'ai pas dit ça. Mais ils étaient laïcs. C'était dans le combat politique que se nouaient les relations. Mmh. Et à l'écart, il y avait, entre guillemets, leurs vieux, si j'ose dire, qui incarnaient une résistance sourde à la présence française, puisqu'on ne pouvait pas aller dans leur maison, on ne pouvait pas voir leur femme, on ne pouvait pas voir leur fille, qui n'envoyaient pas à l'école, d'ailleurs, à l'époque. Hein. Et, si je puis dire, c'était seul le top de la vie politique qui se greffait sur la gauche française, pas sur la droite, hein. À l'époque c'est sur la gauche, quitte à avoir toutes les désillusions que vous savez, c'est pas la peine que je fasse le catalogue, et il y a d'ailleurs la liste dans votre chanson. Bon, la troisième remarque que je fais, c'est que je vois quelque chose d'assez étrange dans ces textes-là, c'est que, d'une certaine façon, le discours africain a pris le pas dans ces textes sur le discours islamique ou maghrébin. Il n'y a pas de doute que vos références, là, ce sont des références des nationalistes de l'Afrique noire. Et pas du tout des nationalistes de l'Afrique du Nord. Moi, j'ai connu les deux. Je vois bien la différence. Il y a du sous-fanon, là. Il y a du para-fanon, n'est-ce pas, dans ce texte.
On ne l'entend pas, bon, évidemment, parce que c'est une lecture, mais dans le... Il y a des voix de Thomas Sankara et Patrice Lumumba qui sont mêlées à la musique.
Et oui, oui, on voit bien, n'est-ce pas? Alors que, de mon temps, si je peux m'exprimer comme ça, de mon temps, il n'y avait aucune interférence, sauf le discours propre de Fanon, mais qui était plus pour les intellectuels que les militants ne connaissaient pas. Hein. Mmh. Les militants, ils connaissaient Ferhat Abbas, Messali Hadj. C'était ces gens-là qui pensaient. Et il n'y avait aucune interférence avec l'africanité des gens des Caraïbes, puisque c'est les gens des Caraïbes qui ont donné une substance à l'africanité, hein, c'est pas les gens d'Afrique. Hein. C'était vraiment séparé. Alors que chez vous, il y a des croisements. Il y a une sorte, en quelque sorte, de greffe de l'africanité, des gens des Caraïbes et des gens du Maghreb.
Vous tapez dans le mille, parce qu'on a... Le groupe est composé, donc moi je suis d'origine algérienne, oui. Ekoué est d'origine togolaise, Philippe est d'origine guadeloupéenne, et Mourad, marocain, et Gérald est franco-malgache.
Voilà.
Donc, c'est... Donc... Vous avez saisi, je trouve, c'est assez frappant. Quoi.
Donc c'est ça qui m'a beaucoup frappé en écoutant votre texte.
Ils ont voulu me corrompre, m'acheter. J'ai refusé. Ce fut une révolte légitime des militaires contre les derniers vestiges du colonialisme. Vestiges du colonialisme.
Heure du décès, le plus tôt serait le mieux. Cause du décès, ça nous importe peu. Un pour le sang, deux pour l'acier.
Ils ont voulu me corrompre, m'acheter.
Heure du décès, le plus tôt serait le mieux. Cause du décès, ça nous importe peu.
La révolution n'est pas ça, elle n'a pas de slogan d'Andy au Gandela. Il ne faut pas exciter les rangs de l'OCDR, les aventuriers, les infanteurs, les abus opportunistes, situationnistes. Ils sont incapables de toute conséquence. C'est de leur rang que se dégagent les géopéodos.
Alors, si je tentais un parallèle qui n'est pas bon, mais qui vient à l'esprit, je pense aux Black Panthers aux États-Unis. Je ne sais pas si vous savez qu'aux États-Unis, il y a eu en gros trois mouvements. Hein. Il y a eu un mouvement Martin Luther King, bon. Il y a eu un mouvement des Black Muslims dans les années 55, 6, 7, qui était, comment dirais-je, une voie sans issue. Une voie sans issue. L'idée était simple, c'était... on va se faire bombarder en Caroline du Sud ou ailleurs si on se territorialise. Problème que se posaient d'ailleurs en Algérie les militants. Ils ne voulaient pas se territorialiser en Constantinois ou ailleurs pour ne pas se faire bombarder. Donc ils cherchaient, en quelque sorte, à l'extérieur, une caution qui les soutiendrait. Et c'était le monde arabe de Nasser qui se développait, puisque c'est l'époque avant Suez, hein, 55, 60, comme ça. Bon. Mais Nasser, il s'en foutait complètement des Noirs américains, parce qu'il avait besoin de l'argent américain pour son barrage de Assouan et pour que les Américains l'aident contre les Français et les Anglais. Donc, le mouvement des Black Muslims n'a pas eu de suite, même si les Black Muslims ont survécu. Et le troisième mouvement, justement, les Black Panthers, a pris la mesure de tout ça, et il ne s'est plus voulu noir. Il s'est voulu révolutionnaire. Et moi, ce qui m'a frappé chez les Black Panthers, que j'ai rencontré en 70 ou par là, si vous voulez, c'est que ces Black Panthers n'étaient pas blacks. Il y avait des blacks, mais il y avait des Chinois, il y avait des Japonais, il y avait des Indiens, surtout de Mexicains, n'est-ce pas ? Il y avait des Européens, pas mal, enfin des Blancs, hein, des Blancs américains. Et c'était un croisement dont le projet dépassait les segmentations antérieures entre jaune, noir, blanc, etc. Vous voyez, qui se voulait autre chose. Et là, il y a un peu ça, en ce sens que l'élan veut dépasser les anciennes scissions ou séparations qu'il y avait entre les uns et les autres.
C'est un très beau parrainage, en tout cas. Okay. Si ce petit texte vous évoque tout ça à la fois, c'est vraiment...
Il s'agira de sang sur les murs, au crépuscule d'une bavure. Je murmurerai la haine, enclavée dans les sucres en région parisienne. L'amour comme rempart à la dérive, au registre de ces âmes charitables, plutôt naïves, se perd. Donne à ma palabre son caractère. Sourire kabyle dans les artères de ma ville, voilà à quoi l'instinct de malfaiteur, ma foi, se familiarisera. Aux effusions sanguines d'une trop commune routine, la rue se massacre sous le ciel des damnés. N'importe quel trou du cul aujourd'hui est armé, hier encore. Nombre d'un regard de travers sur le pavé se dissipait dans un silence de mort. Le crime désormais à la parole trop facile, crois-moi, pour qu'on en rigole de joie sous ces lampadaires qui éclairent la misère. Et si j'exagère, l'obscurité la plus dense n'est jamais loin de la lumière la plus vive. Nourrit ces rumeurs de peur et de paranoïa à des heures tardives sous le tranchant de la lame d'un cran d'arrêt. À vos risques et périls, derrière les guirlandes d'acier d'une maison d'arrêt ou sur un disque vinyle. Considère-moi comme une bombe,
quand tu as allumé la mèche,
et j'y égrène les secondes
d'une saison blanche et sèche.
Considère-moi comme une pompe,
dont tu as allumé la mèche,
et qui égrène les secondes
d'une saison blanche et sèche.
Considère-moi comme une pompe,
dont tu as allumé la mèche,
et qui égrène les secondes
d'une saison blanche et sèche.
Considère-moi comme une pompe,
dont tu as allumé la mèche,
et qui égrène les secondes.
Voilà, rencontre entre le savant Marc Ferraud, l'historien, et Amé du groupe La Rumeur, l'un des quatre garçons de ce groupe qui fête son 10e anniversaire. Et voilà comment autour d'un texte, d'une des chansons que dit l'autopsie, les réactions de Marc Ferraud. On a voulu cette confrontation, cette rencontre, disons. Tant bien sûr la passerelle est longue quand même entre les hautes sphères de l'élite éclairée et les gars qui essayent de faire du rap dans leur quartier. Alors c'est pas tout à fait le cas des gars de La Rumeur, mais pourquoi les rappeurs ne seraient pas aussi des intellos, des gens éclairés, diplômés, c'est tout à fait possible. Et pourquoi est-ce que de temps en temps un intello comme Marc Ferraud, je regarde sa bibliographie, c'est extraordinaire, l'ombre de livres et d'ouvrages et d'interventions de Marc Ferraud n'essaierait pas de se confronter lui aussi à ses textes et à cette, évidemment, cette vitalité, cette contestation, cette jubilation aussi qui est à l'intérieur de ces mouvements, de ce qui est en mouvement en ce moment dans notre société, loin, c'est vrai, assez loin de la scène politique qui nous fascine et qui nous captive. On continue.
Est-ce que je peux vous poser une question qui fait suite, ça aurait pu faire l'objet d'une cinquième strophe, d'un cinquième couplet. On a, depuis quelques années, le sentiment que les ressorts dans les représentations, dans les pratiques politiques, administratives, même territoriales, il y a un certain nombre de ces ressorts, de survivance et de relents de choses héritées de l'époque coloniale. Et on a, de manière un peu lapidaire, l'habitude de parler de traitement colonial des quartiers. D'une certaine manière, il y a des catégories de la population, les descendants de colonisés, les Noirs et les Arabes, pour aller vite, sont pensés par l'exception ou un développement...
c'est vrai.
Une présence au sein de la nation française qui serait à elle seule problématique et qui mériterait un traitement particulier. Quoi.
Oui, c'est vrai. Mais ça ne part pas forcément d'un préjugé ou d'un préjugé ou d'un a priori racial ou raciste. Le préjugé racial ou raciste existe en tout état de cause. Bon, ça, dans le monde entier, c'est comme ça. Donc, on peut pas commencer à dire que, hein, c'est partout comme ça, plus ou moins. Ça se manifeste plus ou moins. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même les gens qui se croient ou qui se jugent les plus aptes ou les plus ouverts à une intégration absolue des populations diverses continuent à avoir le comportement que vous dites. Et je pense à certains de nos ministres, dirigeants de l'intérieur, pas spécialement Sarkozy aujourd'hui, hein, tous depuis 30 ans. Mmh. Et je le vois par le fait que, en ce qui concerne les Maghrébins, je dis les Maghrébins, hein, pas l'Afrique noire. En ce qui concerne les Maghrébins, ils islamisent les Maghrébins. Ça, c'est quelque chose qui me frappe, vous savez. Ils islamisent les Maghrébins, c'est-à-dire que dès qu'il y a une emmerde dans un quartier avec des manifestants où il y a des Maghrébins au milieu, ils vont voir l'imam ou ils vont voir les mecs de la mosquée, n'est-ce pas ? C'est tout juste s'ils ne vont pas voir aussi la synagogue, et pourquoi ils n'iraient pas voir l'archevêque ? Il y a ce courant qui est quelque chose que moi je combats chaque fois que je peux, à la radio, à la télé, dans les journaux, n'est-ce pas ? Parce que cette islamisation est quelque chose d'aberrant. D'abord dans la mesure où tous les Maghrébins sont musulmans, mais ils ne sont pas forcément islamisants, islamistes, croyants et tout. On sait bien qu'ils vont moins dans les mosquées que nous, par exemple. Alors, quand je dis que ce n'est pas de l'hostilité, c'est parce qu'au départ, ces gens-là que j'ai fréquentés, que j'ai rencontrés, ils ont pu juger que c'était un geste de reconnaissance que d'aider à construire une mosquée, vous voyez, quelque chose comme ça. Bon. Du coup, il ne voit pas les effets pervers de ce type de politique. Et moi, mon idée, à moi, c'est que, au fond, il résonne encore comme du temps de la guerre d'Algérie. Ouais. C'est-à-dire qu'il cherche des interlocuteurs valables. Alors, pour trouver des interlocuteurs valables, on va voir les imams des mosquées, n'est-ce pas ? Et dès qu'il y a une emmerde, on voit les imams et on les contrôle. N'est-ce pas ? Un peu comme faisait Mitterrand en 54, pam. Ouais. Hein, il faisait comme ça. Donc, il y a une survie colonialiste même chez les plus favorables à l'intégration ou au croisement des destins. Et c'est ça qui me frappe le plus, vous voyez. Bon. Donc, qu'il y ait une survie, comme vous dites, c'est tout à fait vrai. Et au niveau le plus honteux, puisque on voit bien qu'ils travaillent dans les rues, n'est-ce pas ? Moi, je vois qu'à Rouen et ici, c'est la même chose, hein, ça ne change pas. Donc ça, c'est une chose, mais il y a aussi ce type de comportement. Alors, cela dit, il y a quand même un changement. Il y a un changement, d'abord c'est que vous êtes là, n'est-ce pas ? Vous êtes là alors que vous n'auriez pas été là en 54, à Alger ou à Oran, n'est-ce pas ? Ou alors vous auriez été un béni oui-oui, hein ? Ou alors vous auriez été au maquis, alors que vous êtes là. Bon. Il y a un deuxième changement, c'est pas que vous avez écrit en français, parce qu'il y avait beaucoup d'Algériens qui écrivaient en français, mais ils n'écrivaient pas en français dans un sens protestataire. Ils écrivaient en français dans un sens protestataire, micro-protestataire, c'est-à-dire on est maltraité, il y a de la justice, ceci... Alors que vous revenez aux racines, c'est tout à fait différent. Vous allez beaucoup plus loin. Mmh. Donc, il y a un cran, c'est-à-dire un degré dans l'escalade, si je puis dire, de l'identité, qui est tout à fait nouveau et qui n'existait pas il y a 30 ans. Voilà. Moi, c'est ça que j'ajoute. Vous suivez ce que je dis ?
Ah, absolument. Absolument.
On est synchrone.
Ouais, bien que ce qui vient d'être dit là fournisse les paroles d'un rap à venir, ce serait pas mal de mettre Marc Ferro en rap pour le prochain disque de La Rumeur. Voilà la rencontre entre La Rumeur et le savant. Réaction de Amé avec Antoine Chao à la sortie de l'école des hautes études en sciences sociales.
Là, ça fait après 10 ans qu'on fait ça, il a vraiment tapé dans le mille. Tu vois, il a sorti ses 3 axes, c'est comme ça, et c'est exactement. C'est presque inconscient chez nous, quoi, parce que c'est le fruit aussi de. C'est le fruit. Des interactions entre les différents membres du groupe et comment en fait on est tout le temps en permanence sur ces 3 axes, quelque chose qui est de l'ordre de l'histoire et du passé, des racines, tu vois, nécessaires pour se porter vers l'avant, quelque chose qui est de l'ordre des rapports de force actuels entre l'État français et sa domination sur le pays d'origine de nos parents. Donc aujourd'hui, ce qu'il a appelé le post-colonialisme, ce que d'autres appellent le néocolonialisme, une dimension nationale, les quartiers et la construction d'un ennemi intérieur, quoi, qui est plutôt noir, plutôt arabe, plutôt musulman, plutôt jeune, qui habite plutôt dans une cité. Qui est plutôt violent, etc., etc., tu vois.
Et qui a une double tare, c'est qu'il fait aussi partie de la classe ouvrière, quoi.
Ouais, voilà, et qui en plus est précaire, pauvre, et voilà. Et alors quand il se révolte, qu'il conteste, qu'il écrit des textes politiques et qu'il se révolte violemment, bon là c'est le diable à abattre, quoi, tu vois. Il a même plus d'humanité, quoi. Donc toutes ces problématiques, et j'étais vraiment été frappé par la façon dont il a extirpé, dégagé tout ça, quoi, l'essentiel. Il allait très vite à l'essentiel.
On vient de voir Marc Ferraud, hein. On était dans son bureau à l'école des hautes études en sciences sociales. Et là, en fait, ce qui va se passer... Donc, cette semaine, tu vas avoir l'arrêt de la Cour de cassation sur une histoire que tu traînes depuis à peu près 4 ans.
5 ans.
5 ans.
Depuis 2002. Nicolas Sarkozy avait porté plainte contre un texte dont je suis l'auteur, et qui s'appelait Insécurité sous la plume d'un barbare. Et donc une plainte en diffamation contre un texte que j'avais écrit et qui, en gros, remettait en cause les comportements policiers, la brutalité, les violences policières. Et donc c'était une attaque, en gros, qui visait à dire que ce que j'avais écrit portait atteinte à l'honneur et à la probité de la police française. J'ai été jugé une première fois en novembre 2004 devant la 17e chambre correctionnelle de Paris. J'ai été relaxé. Le ministère de l'Intérieur a fait appel. J'ai donc été jugé en appel devant la 11e chambre de la cour d'appel de Paris. La relax a été confirmée. Derrière l'appel, il y a eu un pourvoi en cassation de Nicolas Sarkozy. Et l'arrêt sera rendu le 13. Donc le 13 juin, cette semaine, on va savoir si cette affaire est de l'histoire ancienne ou si justement... la décision d'appel est cassée et on revient en appel, ce qui voudrait dire que on a le réel sentiment d'être légitime, d'avoir la légitimité et le bon droit d'une certaine manière de notre côté. On peut pas être condamné parce qu'on dénonce et on trouve intolérable une certaine histoire qui frappe les quartiers populaires depuis des générations. Voilà, mercredi 13, on saura ce qu'il en est.
Merci Amé.
Bah, merci à vous.
Pas l'uniforme. Double, triple, trouble, incolore, informe. Elle s'immisce en tout, se mêle de tout, se ressent partout, centrale, sans bruit, sans rien d'écrit, sans aucun parfum, de la moindre gâchette, parfois même avec des talents de poète. La meilleure des polices demeure inégalable. Dans l'art de tous nous mettre à table, tous en place, tous remis en cage, sage, sans effusion ni rage, aucun usage, d'aucune trique, d'aucun bracelet à serrure métallique. La meilleure des polices n'extorque pas de renseignements, elle ne gâche pas son temps, des heures durant au fond d'un poste puant à faire couler le sang du dernier schlag échoué en cellule de dégrisement.
La meilleure des polices chasse sur les terres du paradis sur terre. Quel vent clé en main où on connaît le moyen de te procurer l'envie de rien, la peur de tout, l'effroi de la joie, l'angoisse du chagrin. La meilleure des polices, c'est tout ce qu'on te prend, tout ce qu'on te laisse, tout ce qu'on tue en toi, tout ce qu'on te mâche, tout ce qu'on crache, tout ce que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. Tout ce que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. Tout ce que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. La meilleure des polices, c'est ton taf, ta télé, tes crédits, tes anxiolytiques, neuroleptiques, antidépresseurs et tout ce que tu prends pour pleurer moins fort la nuit. Que tu paies. La meilleure des polices, c'est tes sourires forcés, c'est tes retenues sur salaire et le découvert avant la fin de la semaine. C'est la peur de faire un pas, puis deux, puis trois, parce qu'enfant, on t'a dit que t'étais une merde et que t'as fini par le croire. La meilleure des polices, c'est tout ce qui te fait marcher droit, avec ton propre consentement. Sans jamais oser montrer les crocs, quand bien même on te propose de t'enculer.
Tu paies pour garder le goût.
La meilleure des polices, c'est quand les pauvres savent rester à leur place, sans besoin de les matraquer, de leur coudre la mâchoire, de les mettre au cachot. La meilleure des polices, c'est ce qu'on apprend de mieux, du berceau au tombeau.
Voilà, c'était La Rumeur, leur dernier album. Et c'était un reportage d'Antoine Chao. Merci à Marc Ferraud, à Pierre Terrade, Fabrice Tarit et Nicolas Lambert pour l'association Survie. À lire, je l'ai cité, le livre noir du colonialisme de Marc Ferraud aux éditions Hachette Pluriel. Le titre du dernier album de La Rumeur, j'avais oublié, c'est Du cœur à l'outrage, et la compilation Décolonisons Africa Wants to be Free Acte 2, à visiter le site de Décolonisons, www.africawantstobefree.com, et le site de l'association Survie, www.survie-france.org. Nous vous signalons, ça c'est très précieux, c'est Charlotte qui a trouvé que le dernier livre de Marc Ferraud, Le ressentiment, force obscure de l'histoire, va paraître ou est paru aux éditions Odile Jacob. J'espère qu'on recevra Marc Ferraud sur ce thème dont il nous avait parlé, si vous vous en souvenez. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez la réécouter également sur là-bas.org, là-bas.org. La technique aujourd'hui, Claudine Lapersonne et Benjamin de la Gâtinais. C'est Koy Nguyen et Raphaël Moutéal qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée de Charlotte Perry et Christophe Imbert. Se tient près du répondeur en attendant vos messages au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Alors certains auditeurs se sont un peu étonnés parce qu'aujourd'hui, ça devait être l'émission sur la sexualité des Françaises. Et on vous a fait autre chose. Eh ben, ce sera lundi. Tout sur la sexualité des Françaises, lundi à 15h j'espère que vous allez pouvoir tenir toute cette fin de semaine, tout ce week-end que je vous souhaite ensoleillé et voluptueux. Réclame.